Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité littéraire avec Nelly Capriélian, des Inrecuptibles, Arnaud Vivian de Transfuge et de regard Frédéric Becbédé du Figaro Magazine et du Sud-Ouest, bien sûr, et avec maître, maître Capello, non, maître Michel Crépu, le directeur de la Nouvelle Revue Française. Et je suis également très heureux d'accueillir ce soir au théâtre de l'Alliance Française dans le public les étudiants de Master 1 et Master 2 politique culturelle de l'Université de Paris qui sont présents et audibles avec en plus leur enseignante. Eh bien, bienvenue à vous au masque. On parle ce soir du grand Patrick Modiano, de Quentin Tarantino, mais l'écrivain, d'Abel Quentin, pour le plus grand bonheur de Frédéric, de Dina Bouraoui, et on parle aussi tout haut de Parle tout bas d'Elsa Fotorino. Et dans le courrier de la semaine, Vincent Lemonnier a été consterné par les critiques du masque sur Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro chez Gallimard, que seul Arnaud avait, c'était à Nancy, avait défendu ce livre d'une éblouissante subtilité qui n'est pas sur les robots, traduit notre impossibilité à se comprendre les uns les autres et à décrypter nos non-dits, même colère de François Maignan. Assimiler Clara et le soleil à un simple roman de science-fiction sur des robots est simpliste et réducteur. Derrière ce roman se cache une profonde et poétique histoire humaine qui m'a beaucoup ému et m'a fait verser une petite larme à la fin. Donc tu vois, tu n'étais pas le seul. Enfin si, tu étais le seul au masque.
Magnifique roman.
Voilà, Marion Kaplan de Paris, contrairement à Frédéric, a éprouvé une étrange et profonde joie, et je la comprends, en lisant le livre de Marie Darieussecq, « Pas dormir » chez POL, dont pourtant les romans, nous dit Marion Kaplan, me tombent parfois des mains. Sa forme hybride de ce livre et son érudition sur le sujet de l'insomnie m'ont captivé. Le style est alerte, inquiet, heurté, mais jamais soporifique. Voilà.
C'est bien.
Oui, ben oui, donc tu n'as rien compris à ce livre. Arnaud Sanquer, cette fois comme Frédéric, a été déçu par La fille qu'on appelle de Tanguy Viel chez Minuit. J'attendais qu'il fasse autre chose de ce sujet opportuniste, mais j'ai eu beau tourner les pages, sans déplaisir car son style si particulier est là, rien n'est advenu. Lorraine Baudou de La Rochelle, fidèle auditrice du Dimanche Soir, remercie Arnaud Vivian, car je viens de terminer. Mon mari de Maude Ventura à l'Iconoclaste, et j'ai adoré ce premier roman. C'est à la fois drôle, intelligent, subversif. L'autrice ose notamment écrire des atrocités sur la maternité qui sont totalement à contre-courant mais qui font un bien fou. Enfin, Juliana, qui est colombienne et qui habite Arles, nous envoie ce joli mot. Je suis arrivée en France il y a 20 ans et mon copain de l'époque m'a fait découvrir Le masque et la plume. Depuis, j'ai quitté mon copain. Mais Le masque m'a suivi dans toutes mes aventures françaises. Merci de m'avoir fait découvrir, nous dit Juliana. Tous ces merveilleux auteurs français et étrangers, merci de m'accompagner dans les lectures et les critiques dures et drôles. Et puis, le roman de Jim de Pierrick Bailly chez POL, toujours, m'a absorbé et m'a donné envie de vous écrire pour vous remercier encore de votre conseil. À dimanche prochain. Voilà, c'est vrai que ce livre de Pierrick Bailly, qu'on avait beaucoup, beaucoup défendu au masque, trouve de chaque semaine davantage de lecteurs et d'adeptes grâce au masque. Voilà. Et on commence avec Chevreuse, le nouveau roman de Patrick Modiano chez Gallimard. Et quand on a lu les romans et les récits, comme nous tous, du plus rêveur de nos prix Nobel, de remise de peine à un pédigré, on n'est vraiment pas dépaysé, puisque cette vallée de Chevreuse, au sens large, est celle de son enfance et de son adolescence plutôt chahutée. D'ailleurs, l'écrivain a raconté souvent que lui et son frère avaient été confiés à une amie de leur mère qui habitait Jouy-en-Josas, Jouy, où il fut placé dans un pensionnat de 56 à 60 et d'où il fuga ces lieux, mais aussi un appartement d'Auteuil, ou un hôtel que j'aime beaucoup, assez interlope, de Pigalle, Jean Bosmans, le double de Patrick Modiano, se souvient avoir tenté de les retrouver à la fin des années 60, lorsqu'il écrivait son premier roman. Et voilà, et le livre, c'est une spirale sans fin qui sans cesse retourne à son point d'attache, qui est l'enfance, dont il disait, Modiano, dans son discours de réception du prix Nobel, qu'elle a servi de matrice à toute son œuvre. Et en prime, on écoutera ici une chanson de Serge Latour. J'avais complètement oublié Serge Latour. Douce dame. On téléphonera. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. À Auteuil 1528. Vous avez essayé ça, non? Auteuil 1528. Faites-le avec les chiffres.
Auteuil, ça faisait quel chiffre? Tu t'en rappelles?
Ah non, bah, je l'ai fait sur mon. J'ai fait l'équivalent avec les chiffres, mais je n'ai pas une mémoire de cheval. On perdra une boussole au couvercle gravé. On croisera Madame Tête de Mort. Et on apprendra, ça j'aime beaucoup ça, que les fantômes du passé ressemblent à des maîtres chanteurs. Pas facile d'en parler, mais vous allez y arriver, Nelly.
Ah ben voilà, tu dis pas facile d'en parler, tu me regardes.
Bah oui, je dis pas c'est... facile, juste parenthèse, pas facile, parce que même lui, à un moment donné, ça, je crois que c'est la première fois, il a recours, page 70 ou 72, à des flèches, et il met en équivalence des lieux et des personnages, comme s'il se perdait lui-même dans ses propres histoires.
Et pourtant, cette histoire, il l'a déjà racontée, mais en effet, comme tu disais, Jérôme, en interview. Je ne sais pas vous, évidemment, tous ces livres, j'ai l'impression que ce moment, probablement un peu traumatique de son enfance, qui était d'être confié par sa mère à une amie de sa mère, ils ont, avec son petit frère, je crois.
Avec Rudy, son frère qui est mort.
Oui, voilà. Ils ont passé 2 ans, il me semble, dans cette maison, où, dit-il très souvent en interview, il croisait des êtres très étranges. Il y avait des trafics de toutes sortes. Ça, c'était complètement Patrick Modiano. Il se passait des choses bizarres et inexpliquées. Et il y avait une forme de menace latente. Et je crois que c'est la première fois, en tout cas de mémoire, de l'œuvre de Patrick Modiano, qu'il aborde de front cette période. Alors, c'est une fiction, on ne va pas non plus faire comme si c'était vraiment ce qui s'était passé. Où il nomme les personnages, où il nomme leur trafic.
Et il nomme le nom et les numéros des vraies rues, notamment
oui,
de Julien
voilà,
Josas.
Voilà. Donc il y a quelque chose, moi qui personnellement, à un moment donné, où il y avait une menace qui planait sur ce jeune homme, parce que ces types vont le retrouver alors qu'il a 23 ans, ces types qui étaient dans son enfance quand il était confié à cette dame, et qui se livra à des trafics extrêmement bizarres, et une forme de chasse au trésor un peu à la fin. Moi, ce qui m'a la menace qui a fini par planer sur moi, complètement fan, j'imagine comme vous tous, de Modiano, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir écrire après ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il aborde
Pardon,
complètement...
Pardon, mais c'est ce que vous dites après chacun de
non,
ses romans.
Jamais moi.
Non, mais en
jamais.
Général.
Mais là, je me suis dit... Parce que, en fait, le livre se termine au milieu, c'est ça que ça commence, où le jeune homme va se mettre à écrire.
Il écrit son alors, premier roman qui termine dans les morts, dans le massif des morts.
Voilà. Mais c'est pas La Place de l'Étoile, parce que c'est pas exactement le même roman. Patrick Modiano, son premier roman, Place de l'Étoile, en 68, je crois. Mais là, je me dis, c'est... Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce qu'il va nous faire un coup à la Philip Roth ? C'est-à-dire, j'arrête d'écrire et maintenant, je ne sais plus quoi dire. Je retourne au moment, je vais du trauma à l'écriture, je deviens écrivain. Là, c'est Patrick Modiano qui devient écrivain. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va raconter ? Est-ce qu'il va commencer à raconter tout le reste de sa vie ? Non, c'est certainement pas possible, parce que ça fait quand même 50 ans qu'il est habité par ce trauma-là, enfin, par cette histoire-là, par ces fantômes-là. Donc là, tout d'un coup, je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, et si c'était le dernier livre de Patrick Modiano ?
Mais est-ce que tu as éprouvé du plaisir, oui ?
Ah oui, j'ai éprouvé du plaisir.
C'est ça que je vous demande.
Non, mais
aussi.
Bah, Patrick Modiano, c'est comme Proust. Enfin, c'est un univers. Quand on aime son univers, on aime ses livres.
Arnaud ?
L'image vraiment centrale du livre, c'est celle de ce réseau téléphonique qui d'ailleurs a persisté, hein, qui est finalement l'ancêtre des réseaux sociaux. Il y a quasiment presque d'ailleurs une capacité à faire rentrer son œuvre dans un réseau social. Il y a des échos. C'est stupéfiant le nombre d'articles qu'il peut y avoir sur le net, hein, de la part d'internautes qui vont chercher justement les résonances, les échos entre ce livre-là et les précédents. Quand vous allez regarder sur YouTube la vidéo justement de Serge Latour, cette chanson, vous voyez tout le monde en train de remercier Modiano. C'est extraordinaire.
Douce dame.
L'impact sur le réseau précisément de Modiano, sur le réseau social. Je crois que c'est inouï. C'est la première fois d'ailleurs que ça arrive avec ce livre-là.
C'est d'autant plus drôle qu'il n'utilise pas Internet. C'est tout juste s'il est importable.
Oui, et pourtant, en même temps, c'est ça qu'on a l'impression que c'est ce qu'il essaye de faire avec ce livre, c'est de créer un réseau avec ses livres précédents. Il y a un côté rhizomatique presque dans son écriture là maintenant, que je trouve vraiment incroyable. C'est comme s'il bâtissait des liaisons avec les autres livres, et puis il y a à la fois l'enfance de l'art, hein, il y a quelque chose là qui relève de l'enfance de l'art, c'est comment il a commencé à écrire. Il y a la chasse au trésor qui renvoie effectivement là aussi à une perspective d'enfance. Il y a quelque chose de très simple et de presque puéril dans ce livre, au bon sens du terme, hein, c'est vraiment qui renvoie à la force de l'enfance. Moi, j'ai l'impression qu'il peut continuer justement à écrire des livres pour
s'en prise pas.
Bâtir encore d'autres résonances, d'autres
échos. Qui sont toujours des livres brefs en plus.
Si vous voulez, l'image qui vient quand même, c'est celle de Pierre Ménard, l'écrivain que Borges avait inventé, qui réécrit le Don Quichotte, mais en fait, qui ne peut pas le réécrire parfaitement, puisqu'il est d'une autre époque, d'un autre pays, en l'occurrence, il est français dans les années 30. Et donc, Modiano, il est dans la même position, c'est-à-dire qu'il réécrit son œuvre, mais en ayant son œuvre derrière lui. Donc, il peut l'organiser autrement. C'est ça qui est fascinant, il est devenu l'architecte de son œuvre, en fait.
Frédéric.
Bon, ben, on est tous fanatiques de Modiano, donc on va, pour le plaisir de créer un débat, je vais dire que quand même, il tourne en boucle. Tu as dit, la boucle est bouclée.
Pardon, Frédéric, mais ça n'est pas la première fois que tu le dis.
Ben, on est quelques-uns à l'adorer et à trouver aussi que ça tourne un peu en rond. C'est pas très grave. C'est ça, le tour de magie. Pour moi, c'est comme un vieux prestidigitateur qui fait toujours le même tour de magie. Et bon, parfois ça peut être un grand magicien, et puis parfois ça peut être Garcimore. Vous vous souvenez Garcimore, celui qui disait toujours ça marche pas. Je ne suis pas sûr que là tout le monde marchera. Il faut prévenir
Franchement, comparer Modiano à Garcimore.
Garcimore, parce que nous on s'en souvient de
Garcimore. Tu tombes bien bas là.
Non, mais
moi j'aime bien Garcimore.
Il écrit sur l'oubli et sur ce qui surnage de l'oubli. Alors évidemment que c'est proustien, bien sûr, c'est Proust en plus ramassé. Donc ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais encore une fois, pour le plaisir de la dialectique, moi, je dis, attention, la lecture de Modiano peut rendre fou. Je crois que ça peut rendre fou, et que je crois que lui-même est très très obsessionnel quand même sur les mêmes endroits et les mêmes personnes depuis 50 ans. Donc
les endroits changent. Non, les endroits changent. C'est jamais un peu pareil. Il nous fait toutes les zones grises de Paris.
La Vallée de Chevreuse, on l'a vu.
Mais
on l'a vu en Remise de Peine.
Il y a eu le 13e arrondissement, il y a eu le 14e arrondissement. Non. Il y a eu d'autres quartiers, mais là, je te trouve quand même très, très dur,
non,
parce que je trouve qu'à chaque fois, il va ailleurs. C'est-à-dire, c'est un peu comme on parlait du dernier livre de Christine Angot. C'est pareil, il y a des réverbérations de ses autres livres, et il y a une façon de reprendre l'ouvrage
en
et de le pousser plus loin.
Il y a
loin.
Une sexualité un peu souterraine.
Toujours.
Qui est
très souvent,
il y a des choses un peu glauques.
Non, ce que je veux dire,
c'est vrai.
Je ne suis pas en train de dire qu'il est gâteux, vous inquiétez pas. Je dis qu'il est obsessionnel. C'est très angoissant et dépressif, à mon avis, ces obsessions et cette façon de considérer la littérature comme un décodeur pour essayer de relier des indices qu'un détective a trouvé après une enquête dans les rues sombres du Paris 16e Sud.
Arrête, on frémit.
Tout ça pourquoi ? Pour essayer de clarifier quoi ? C'est beau, ce sont des souvenirs. Donc aussi, d'une certaine façon, moi je m'écrase, c'est merveilleux, bien sûr, c'est merveilleux. Mais il dit lui-même,
très convaincant, écoutez, hein.
Il dit lui-même, tout cela était extrêmement banal, sauf pour lui. Et un peu plus loin, il n'y aurait jamais rien de nouveau dans sa vie. C'est Patrick Modiano qui l'écrit, c'est pas moi. Hein.
Michel.
Alors, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit.
Et pourtant, c'est pas la même chose. Hein,
mais c'est modianesque.
Tu fais la synthèse, là.
C'est modianesque.
Onusienne.
Tout se recoupe, tout se connecte. Et effectivement, il y a un peu l'image du rhizome qui s'impose. Ce qui m'a frappé, moi, à la lecture de ce livre, c'est une certaine dureté.
Dureté ?
Oui. C'est-à-dire que je trouve que les livres de Modiano sont toujours portés par une sorte de rêverie, quelque chose de très impalpable et qui fait que les choses arrivent comme ça d'elles-mêmes, de la nuit des temps et repartent et on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas où ça va. Là, dans ce livre, je trouve qu'il y a quelque chose de précipité, comme s'il se dépêchait, et il y a quelque chose de dur, une confrontation avec quelque chose qui l'empêche de suivre, de laisser faire la rêverie, et donc il y a une sorte de difficulté, d'obstacle, je ne sais pas, que je n'avais pas ressenti dans les autres volumes, les autres livres, et que j'ai ressenti là.
C'est ton droit, hein.
Oui, bien sûr, je sais bien.
Non, mais celui-là, il y a trois temporalités différentes, quand même. Ben, c'est vrai qu'il y en a plus.
Il se souvient de l'époque, dans les années 60, où il allait enquêter sur les lieux où il avait été enfant.
Voilà.
Donc, c'est évident, il y a trois époques, mais c'est pas pour autant dur.
Non, moi, j'ai trouvé ça très fluide. C'est très angoissant. C'est un peu les films noirs français des années 50, c'est les Gilles Grandier, c'est Melville.
Oui, mais en plus claustrophobe, je trouve. Et j'ai de la peine pour lui, en
personnellement,
fait.
Comme dirait Nelly Caprielian, je vous conseille de lire Chevreuse, c'est Patrick Modiano, et c'est chez Gallimard. Alors, il n'est bon bec cet automne que du Voyant des Tempes. Le deuxième roman aux éditions de l'Observatoire d'Abel Quentin, par ailleurs avocat pénaliste, il défend actuellement un accusé au procès des attentats du 13 novembre. D'ailleurs, il y a un très bon portrait d'Arnaud dans Regard de ce...
Dans Transfuge,
de cet écrivain. Un roman déjà conseillé dès le mois d'août par Frédéric au Masque et la Plume, qui figure d'ailleurs sur presque toutes les listes des prix littéraires. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui ait fait le silence sur ce deuxième roman. Son héros est moins reluisant, si j'ose dire, que le succès d'Abel Quentin. Jean Roscoff, un universitaire à la retraite, à la ramasse, il faut dire aussi, alcoolo, divorcé, qui a écrit un livre contesté sur les époux Rosenberg et qui croit revenir en grâce avec Le Voyant des Tempes, qui est la bio d'un poète américain et communiste proche de Sartre, qui se serait tué au volant de sa voiture en France au début des années 60. En fait, de grâce, évidemment, c'est la disgrâce, exécutée sur les réseaux sociaux dont parlait à l'instant Arnaud, par les tenants de la cancel ou de la woke culture. Roscoff est accusé d'être un blanc qui parle d'un poète noir, de vouloir se l'approprier, ou plutôt qui n'insiste pas assez dans son livre sur le fait qu'il était noir et qui va être menacé dans sa vie quotidienne, alors qu'il était, avant ce Jean Roscoff, qu'il était militant à SOS Racisme. Oui, je le disais, tu parlais dans Transfuge d'un grand roman contre l'identité. Tu peux t'expliquer un peu ?
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est, à mon avis, les deux livres, les deux romans qui dominent cette rentrée littéraire, c'est tous les deux sont des biographies d'écrivains noirs, d'écrivains imaginaires. C'est le livre de Mohamed Bougarsar.
Dont on parlera dans un prochain Masque et la Plume.
La plus secrète mémoire des hommes, donc, où il imagine, c'est un écrivain qui va à la recherche d'un écrivain, mais qui est totalement imaginaire, qui aurait eu du succès dans les années 30. Et là, donc, Roscoff, Abel Quentin imagine que son personnage travaille sur la biographie d'un écrivain, là encore une fois, imaginaire, noir américain, et qui est venu en France parce qu'il était communiste. Roscoff est un spécialiste de la guerre froide. Il donnait des cours d'histoire avant d'être à la retraite sur la guerre froide. Et c'est un spécialiste, par ailleurs, du Parti communiste américain. Sujet très intéressant, mais assez pointu. Et donc, il se trouve que ce personnage a quitté, cet écrivain a quitté les États-Unis pour venir en France dans les années 50, qu'il a côtoyé Sartre, les existentialistes, avant de se réfugier à Étampes, et de s'abandonner, si on veut dire, ou s'adonner à la poésie, mais pas n'importe quelle poésie, une poésie inspirée par Charles Péguy. Ce qu'on lui reproche sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir minoré le fait qu'il était noir. C'est ça qui est intéressant, parce que Roscoff a d'abord pensé à cet écrivain en tant que poète inspiré par Charles Péguy, en tant que communiste, et finalement, il a un peu minoré le fait qu'il était noir, et c'est ce qu'on lui reproche. Donc ça, c'est on lui fait un procès d'appropriation culturelle. Donc, comme il est un ancien d'SOS Racisme, il est foudroyé, parce que précisément l'antiracisme a été la cause de sa jeunesse.
Et puis les attaques contre lui vont aller très loin quand même.
Et les attaques contre lui vont aller très loin dans les systèmes qu'on connaît de chasse à l'homme sur les réseaux sociaux. Comme il est alcoolique, il a le tweet malheureux par ailleurs, donc ça met le feu à la brousse. Et donc il est parti. C'est un livre extrêmement drôle, extrêmement intelligent. Alors pourquoi je dis que c'est un livre contre l'identité ? C'est parce que Roscoff dit qu'il est contre les layettes identitaires, c'est comme ça qu'il en parle, dont chacun d'entre nous devient emmailloté, finalement. Et là où l'histoire prend un tour vraiment drôlatique, c'est que tout le monde imagine évidemment que Roscoff est breton. Or, on découvrira que pas du tout. Et justement, il y a une manière tout le temps de déjouer les systèmes identitaires, la manière dont on veut nous plaquer une identité en disant tu es ça, tu es blanc, tu es boomer, t'as plus de 50 ans, etc. Et c'est une manière vraiment de déjouer tout ça. C'est une grosse machine. Moi, je trouve c'est très impressionnant le travail qu'a fourni Abel Quentin. On pense évidemment à La Tâche de Philip Roth. On pense à Disgrâce de Coetzee, deux romans qui étaient contre le politiquement correct. Et là, je pense que c'est pas du tout un livre contre la woke culture ou la cancel culture. C'est vraiment un livre contre la notion d'identité.
C'est ce que disait Frédéric.
C'est pas grave. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Les deux livres que tu as cités, Disgrâce de Coetzee et La Tâche de Roth, les héros étaient des profs. Là aussi, le héros est un prof, comme également dans Soumission de Houellebecq.
Enfin, et c'est pas un hasard. Un ancien prof.
Prof d'université, oui, à la retraite. Et déphasé, complètement. Dépassé par les événements. Et moi, je trouve que ce qu'il y a de passionnant, c'est l'idée que c'est pas un hasard si c'est des personnages de professeurs, parce que la transmission s'est arrêtée. On voit dans tous ces livres, au fond, que si on décide de corriger les œuvres du passé, on peut plus raconter rien, aucune histoire. Donc on peut plus enseigner quoi que ce soit, on peut plus transmettre. Et c'est cette question-là, elle dépasse la cancel culture, le wokisme ou même l'appropriation culturelle.
Bon, cela l'identité. Dit, lui, c'était un prof qui avait fait une grosse erreur sur les Rosenberg.
Oui, c'est aussi son livre précédent avait été très critiqué.
C'est quand même aussi l'histoire de quelqu'un qui commet deux fois la même erreur.
Oui, alors, et puis alors, ce qui est drôle, c'est antiraciste et demi, puisqu'il y a plus antiraciste que les anciens des SOS racisme qui leur tombe dessus. Et donc, parce que c'est un livre qui a quand même été beaucoup défendu par des journaux de droite, il faut le dire, c'est pas un livre de droite du tout. C'est l'histoire d'un ancien gauchiste, d'un mec qui ne comprend pas pourquoi l'idéal de tolérance qu'il défendait se transforme en fascisme. Ouais. Et au fond, c'est ça qui est assez incroyable dans le politiquement correct. C'était une belle idée au départ, complètement dévoyée aujourd'hui aux États-Unis.
Non, il faut dire que jusqu'à la fin, on est chamboulé.
Vous n'êtes pas seul à parler, hein. Vous n'êtes pas seul. Et vous pensez qu'il peut avoir un des grands prix ou pas?
Bien sûr, il le mériterait, oui. Il mériterait. D'abord parce que c'est un excellent, comme il l'a dit Arnaud, un excellent roman quand même. Hilarant, désespéré, très construit, qui monte tout le temps. Chapitre après chapitre, jusqu'à la fin, qui est très étonnante.
Il va avoir du mal à quitter le procès pour aller recevoir ses lauriers.
Oui,
ça va être
compliqué. C'est vrai, oui.
Michel, il y a une chose qui m'a amusé dès le départ, c'est que moi, je suis né à Étampes, donc c'est un endroit que je connais.
Oh, mais ça, on s'en fout.
Ça n'a aucun rapport. Mais ça m'amusait beaucoup
c'est
de retrouver.
Sur toi. C'est toi,
ça m'amusait de retrouver, de chercher des échos d'Étampes dans le livre de.
Et Abel Quentin habite réellement.
Oui, réellement, oui, oui. Bon. Effectivement, ça n'a aucune importance,
qui n'est pas son nom d'ailleurs, Abel Quentin. C'est un pseudonyme.
Alors moi, je dirais que c'est un livre sur la contradiction. C'est l'après Kundera est avancé. Kundera définissait le roman comme un lieu de où les valeurs s'équilibrent les unes les autres, ne s'accordent pas. Et ben là, c'est ça, c'est exactement ça. Ce qui arrive à ce professeur, c'est la contradiction intenable, insoutenable. C'est l'insoutenable contradiction de l'être. Tout ce qui est déroulé dans le livre relève de cette espèce de confrontation permanente à quelque chose qui n'est pas saisissable, qu'on ne peut pas fixer. Effectivement, on n'est pas dans l'identité. On est dans quelque chose qui, en même temps, a une existence, une unicité, mais qui ne fonctionne pas sur le mode de l'identité. Et c'est ce qui fait toute la difficulté et toute la dynamique du livre. Et donc ça, c'est très, très fort.
Nelly, est-ce que tu participes concert
oui,
d'éloge?
Non, je dirais même plus. Je pense que c'est une voix. Enfin, c'est une nouvelle voix de la littérature là, que je découvre. Je n'avais pas lu son premier roman, Sœur. Là, on a vraiment un écrivain. On le dit pas souvent, finalement. Là, je trouve, il y a quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un derrière le livre. Moi, c'était tellement incarné, ce personnage est tellement incarné, sa voix était tellement incarnée, qu'à un moment donné, moi qui ne sais pas du tout qui est Abel Quentin, je me disais, est-ce qu'Abel Quentin est aussi un vieux prof de 65 ans, alcoolique?
Son vrai nom, c'est Albéric de Gaillardon.
Voilà.
Et il a 35 ans.
Ce que j'ai lu dans Transfuge.
Oui, bon, tout ça, on s'en fout un peu. Excusez-moi, pardon.
Mais c'est important.
Là, je parle quand même de l'écrivain.
Le fait qu'il soit avocat et qu'il ait choisi un pseudonyme pour écrire ce livre, c'est pas tout à fait.
Et le fait qu'il ait 35 ans, alors que son personnage en a 65.
Absolument.
Non, moi, je pense qu'il ne faut pas le laisser à la presse de droite. Il ne faut pas le laisser à la presse de droite. Ce n'est pas un livre anti-woke. C'est un livre contre une forme de victimisation. On doit être tous des victimes à partir du moment où on appartient à une minorité. Et comment cette façon de se désigner comme victime est dévoyée pour devenir le bourreau de l'autre. finalement. Parce que si se passe sur les réseaux sociaux, mais ça peut être absolument atroce. C'est-à-dire qu'au nom du fait qu'on est une minorité insultée, enfin, où on se sent insulté, on peut menacer de mort. Non, mais on peut menacer, ce qui est complètement fou. C'est-à-dire, on devient les bourreaux. Et c'est un truc, ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est absolument détestable. Et je trouve qu'il le dit avec une brillance, avec des phrases, un génie de la phrase, avec un humour, avec un esprit.
Enfin, et une cruauté.
C'est un étincelant d'intelligence. Et j'adore ce personnage d'écrivain qui se retranche dans une vieille baraque à Étampes pour écrire de la poésie un peu pathétique quand même, qui n'en a plus rien à foutre de rien, qui vit seul à écrire sa poésie. Je trouve que ce personnage qui est le plus, au fond, le plus woke, quoi, qui a tout compris à la vie, qui est magnifique.
Eh bien, au moins, ici, ce soir, j'aurais travaillé à la réunification du Figaro Magazine et des Arts Incorruptibles.
Autour la dernière fois, ça s'était passé voyant, aussi, c'est presque inquiétant.
Angot, oui. Oui.
Autour du voyant d'Étampes d'Abel Quentin aux éditions de l'Observatoire. Et donc, ben, guettez bien les prochaines distributions des prix. Satisfaction, ce n'est pas seulement le titre phare d'Estone, c'est aussi le 18e roman chez Jean-Claude Lattès de Nina Bouraoui, dont je rappelle qu'elle est, il faut le préciser, née de mère bretonne et de père algérien, puisque dans ce roman, Michel est une Française qui a épousé un Algérien, Brahim, lequel dirige à Alger une usine de papier. Ils ont un fils de 10 ans, Erwan. Michel, ou plutôt Madame Akli, ça rime avec Madame Bovary, s'ennuie et consigne sa mélancolie dans des carnets intimes. Elle est arrivée en Algérie en 62, au moment de l'indépendance. Elle vit dans un pays où les couples mixtes sont mal vus. Elle ne cache pas son attirance pour Catherine, qui est la mère française d'un copain de classe d'Erwan. Bref, tous les thèmes chers à Nina Bouraoui sont réunis dans ce roman, somme toute classique. Je dis ça parce que c'était pas toujours le cas des précédents de Bouraoui. Et je rappelle qu'on lui doit La Voyeuse Interdite, prix du Livre Inter 91, et Mes Mauvaises Pensées, prix Renaudot 2005. Frédéric.
C'est pas éloigné du projet de Mes Mauvaises Pensées, qui était aussi, enfin, entre deux pays, France et Algérie.
C'est une thématique qui court de livre en livre chez Alain.
Et entre les deux genres, hommes et femmes. Et moi, je suis resté entre deux eaux, parce que j'ai pensé à comment Keith Richards a composé Satisfaction. Tu sais comment il a composé?
Oui,
il a,
avec une espèce de vieux magnéto.
Voilà. Il a enregistré, il a eu une idée en dormant, et pendant son sommeil, il a simplement enregistré le riff de Satisfaction,
ouais.
Et puis après, la cassette a enregistré ses ronflements pendant toute la nuit. Et ça, c'est une histoire vraie. Hein. Eh bien, c'est un peu mon sentiment.
Et là, tu as trouvé des ronflements dans
Je trouve qu'il y a un très bon début, avec un bon riff de guitare au début, et qu'après, il ne se passe plus rien. Et j'ai pas réussi à m'intéresser davantage. Et puis alors, j'ai noté des phrases, par exemple, « Je ne ressens plus l'entièreté de notre lieu », de notre lien, l'entièreté, j'aime pas trop c'est louche quand il y a des mots comme ça. Et puis
on t'exagère un peu.
Non, mais alors par contre, il y a une autre phrase que j'ai beaucoup aimée, la peau est l'endroit de ceux qui n'ont plus d'attache. Ça c'est une phrase c'est très très belle. Donc vous voyez, je suis entre deux eaux, je suis pas spécialement contre, mais j'ai pas été frappé. Pour.
Michel, qui est aussi un fan d'Estone.
Oui, oui. Je ressens un petit peu la même chose que Frédéric. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le cas de Bouraoui, c'est qu'il y a un espèce de parcours un peu musical, en fait. Les livres qu'elle écrivait il y a 10 ans étaient des trucs assez complexes, assez impénétrables. Et là, on est dans quelque chose de plus décatif, de plus délié. Moi, qui m'a pas du tout déplu, c'est aussi un livre sur la contradiction ou sur l'identité contradictoire. Et j'ai plutôt bien aimé ce livre.
Mais tu es très très convaincant. Nelly.
Alors moi, j'ai pas du tout aimé ce livre. Alors vraiment pas du tout. Je trouve il y a plein de jolies phrases, mais il y en a trop. Ouais. Pour dire quoi, je ne sais pas. C'est-à-dire, je suis assez d'accord avec Frédéric. Au début, on se dit bon, voilà, c'est pas mal, quoi. Et puis rien. Il y a de l'atmosphère, il y a énormément d'atmosphère. Cette femme, au bout du compte, ne m'intéresse pas parce que c'est quand même son journal intime. Donc elle désire pas, elle sait pas, elle est jalouse de telle femme, elle sait pas, il fait chaud, elle mange. Une espèce de sensualité exacerbée, tout ça parce qu'on est en Algérie. J'ai trouvé ça un peu cliché.
Beaucoup de fleurs,
beaucoup de fruits. Ouais. Beaucoup de voilà, beaucoup de parfums, enfin, mon Dieu, et ça revient comme des ronflements. Et non, ça m'a, j'ai trouvé que c'est exactement le livre, que, le genre de livre dont je n'en peux un peu plus. Voilà, quand on en lit beaucoup, ça pourrait être bien, il y a quand même, c'est quand même littéraire, enfin je veux dire, c'est quand même, et puis par ailleurs j'ai aimé des livres de Nina Bouraoui, mais là je trouve que c'est se regarder écrire et faire des jolies phrases, ou des phrases qui ont l'air graves, des phrases qui ont l'air d'être poétiques, et en fait elle ne dit rien.
Si elle veut, si on voit bien ce qu'elle veut faire.
Il y a quand même un problème.
Madame Bovary en Algérie, à un moment de son histoire assez crucial.
C'est embêtant, oui. Sinelli, tu es d'accord avec moi tout le temps. Il va falloir faire attention. Tu vas finir par avoir des problèmes.
La fin de l'émission, vous allez repartir ensemble.
Je sais pas
ensemble,
lequel va se faire virer.
Oui, là, nous deux va se faire virer, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu voulais dire, Frédéric?
C'était ça.
C'est tout. Arnaud.
Moi, j'ai beaucoup aimé, moi. Je trouve que c'est un roman... magnifique d'abord sur l'Algérie, extrêmement, alors effectivement, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de parfums, beaucoup de paysages, beaucoup de cuisine. Il y a quelque chose de capiteux, en fait, dans l'écriture de Nina Bouraoui. La sexualité est totalement, bizarre, apeurée. Parce qu'en fait, il y a quand même toute une construction sur l'identité sexuelle, parce que l'amie dont elle est amoureuse, hein, cette Madame Bovary d'Alger, en fait, elle a une fille, contrairement à ce que tu as dit dans ta présentation, elle a une fille, mais qui ressemble à un garçon. Tout le monde surnomme Bruce parce qu'elle est fan de Bruce Lee. On est en 1974, hein. Le livre se passe en 1974. Et donc, il y a ce côté-là, en fait, de quasiment presque transgenre, déjà, chez cette petite fille qui ressemble à un petit garçon. Et la Madame Bovary, elle a un vrai petit garçon, et qui n'est pas efféminé, mais qui est, pour le coup, un peu timide. Et donc, il y a tous ces rapports-là entre les enfants, entre les deux femmes, entre cette Algérie qui vient juste de devenir indépendante. Encore une fois, on est en 74, je trouve ça assez gonflé, ces couples mixtes, en fait, d'avoir mis en scène deux femmes qui sont mariées à des Algériens dans cette situation-là. Non, je trouve qu'il y a quelque chose, et encore une fois, c'est un très beau livre sur l'Algérie, quoi, sur les paysages,
Tu mérites une médaille pour ton courage.
Non, mais
c'est vraiment beau.
Non, Nina Bouraoui, je trouve que Nina Bouraoui a une carrière vraiment étonnante. Elle fait des livres extrêmement curieux, très différents les uns des autres, et à chaque fois surprenants. Et
même si la thématique revient quand même.
Oui, pas toujours. Elle avait fait un livre sur un type qui travaillait dans une usine. Ça n'avait strictement rien à voir. Elle n'est pas toujours l'Algérie non plus. Là, c'est très beau.
Satisfaction, c'est Nina Bouraoui, et c'est chez Lattès. Parle tout bas. Le quatrième roman d'Elsa Fotorino, Mercure de France, qui a figuré, en tout cas sur les premières listes, du Goncourt et du Fémina. 12 ans après avoir été violée dans un bois, elle avait alors 19 ans, c'était en 2005, très exactement. Et alors que l'affaire, faute de preuves, avait été classée sans suite, la narratrice, qui est mère d'une fillette et enceinte d'un deuxième enfant, est rattrapée par ce traumatisme, puisque un suspect récidiviste est identifié et qu'il y aura bien un procès. Une histoire écrite, Elsa Fotorino, de l'horreur banale dont on comprend, et puis elle l'a dit depuis, entre les lignes, qu'elle fut elle-même la victime. Mais, ajoute-t-elle dans son livre, le désespoir n'a jamais empêché personne d'être heureux. Michel.
Je trouve que c'est un très beau livre. Il se trouve que Elsa Fotorino s'occupe beaucoup de musique, en fait. Elle travaille pour un journal musical et j'écoute souvent le dimanche après-midi cette émission.
Tu vas nous raconter ta vie
personnelle. Non, parce qu'elle intervient dans cette émission de critique qui est un peu l'équivalent du Masque et la Plume musical. Et c'est toujours très intéressant ce qu'elle dit. Et dans ma lecture de son livre, j'ai retrouvé des points de convergence comme ça avec ses passions musicales. Et ce qu'elle dit de cette histoire est d'une subtilité, d'une finesse, de quelque chose de très, très, très agréable d'une certaine manière, et très intelligent surtout. C'est un livre très intelligent sur, aujourd'hui, maintenant, enfin, il y a 40 000 livres qui sortent sur le viol, enfin, on est absolument... Et là, on a quelqu'un qui arrive à traverser cette opacité, cette violence, et à dire des choses subtiles, fortes, qui m'ont touché.
Frédéric.
J'avais très peur parce qu'effectivement, comme Michel, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de littérature MeToo. Là, c'est vraiment, c'est pas parce qu'on souffre qu'on a du talent. Mais là, ça commence pas très bien. Mais page 30, il y a tout d'un coup l'extrême fragilité de cette narratrice, conjuguée avec la sobriété de l'écriture, ouais. Et ça devient d'une émotion insoutenable. Pourquoi ? Parce que c'est une victime qui veut pas en être une. Elle en a marre d'être une victime. Ouais. Elle veut pas se victimiser du tout, mais du tout. Elle écrit, et moi je trouve que c'est un sommet d'élégance.
Oui.
Ce que je voulais, moi, c'était profiter d'un rayon oblique sur le bois blond, contempler le retour sur Terre de la capsule Soyouz, admirer le revers lifté de Raphaël Nadal. Et là, on est totalement mais saisi, vraiment aux larmes, parce qu'en fait, il y a l'agression, en premier, et puis il y a une deuxième agression qui est le procès. Mais c'est normal, il faut qu'il y ait un procès. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'il faut re-raconter toute l'histoire à la police, puis ensuite au tribunal. On a l'impression que c'est une nouvelle torture, et que le seul moyen de sortir de cette torture, c'est ce roman, qui lui sert de bouclier humain, en fait, qui va lui servir de bouclier littéraire, je veux dire. Et du coup, ce livre est absolument nécessaire. Et tout ce que j'ai dit contre la littérature MeToo, ben, tout d'un coup, s'effondre devant le talent, le génie, la sensibilité. Voilà.
Nelly.
Oui, j'ai trouvé ce livre très, très beau. Il y a beaucoup de livres, c'est vrai, qui sortent sur le viol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de viols, quand même. Il y a un passage qui dit qu'elle apprend vers la fin, au moment de son procès, qu'en fait, pour 11 plaintes, il y a 50 viols commis. Et c'est bien qu'il y ait cette prise de parole, en effet, même si elle passe par la littérature, même si ça ne fait pas toujours de la littérature, en effet. Mais c'est important aujourd'hui qu'il y ait cette prise de parole. Et là, c'est de la littérature. Elle est, en effet, d'une élégance, d'une précision. C'est sidérant. Enfin, c'est très beau et à la fois sidérant. C'est glaçant. Les moments où elle dit qu'elle n'arrive pas à raconter exactement les faits de ce qui s'est passé dans ce bois où elle se fait agresser.
D'ailleurs, elle a mis beaucoup de temps à le raconter.
Elle met du temps à le raconter. À la fin, elle écrit une lettre. Son avocate lui dit « si vous ne voulez pas comparer ». Donc, il y a des victimes de ce violeur qui, elle, comparaissent contre lui. Elle ne veut pas. Son avocate lui dit « écrivez une lettre ». Et le violeur à la barre dit « j'en ai les larmes aux yeux, c'est très beau, enfin, c'est atroce ». Le procès aussi, elle dit « toutes les parties civiles sont des femmes ». Le seul homme, c'est l'avocat du violeur, qui est extrêmement agressif avec les parties civiles. Il y a ce système du procès qui est extrêmement violent. Au fond, on retrouve une division homme-femme qui ne devrait pas exister, mais là, qui se rejoue, finalement. Je trouve qu'elle trouve les mots. Je trouve, alors, contrairement à Nina Bouraoui, par exemple, pardon, mais elle est dans une économie de mots qui en fait toute la force, mais qui en fait toute la force, parce qu'on va comprendre plus ou moins comment le viol s'est passé à un moment donné. Enfin, évidemment, tout viol est atroce. Donc même sans le raconter de façon extrêmement clinique, disons, ce qu'elle met dans notre imaginaire, en tout cas dans notre imaginaire, est épouvantable. C'est une épouvante qui se passe. Donc j'ai trouvé ce livre d'une force et d'une beauté, voilà, saisissante.
Arnaud.
Ce qui fait de ce livre de la littérature, c'est qu'on ne peut en tirer aucune morale. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'elle veut raconter. Elle dit, il ne faudrait pas croire que toutes les histoires sont semblables, ni que toutes les victimes se ressemblent. Son cas, il est très particulier. Elle ne voulait pas être victime. Elle ne voulait pas se considérer, être considérée comme victime. Elle ne voulait pas de réparation. Elle ne voulait pas de dommages et intérêts. Elle ne veut pas aller au procès lorsqu'on trouve des années plus tard.
Elle ne voulait pas écrire dessus.
Le coupable. Et donc, oui, en plus, elle ne voulait pas écrire dessus. Et là, elle est obligée pour dire justement qu'elle ne veut pas être victime. Le seul moyen, c'est d'écrire ce livre. Et c'est ça la force de ce livre. C'est qu'il tourne le dos quand même à tout le discours qu'on entend aujourd'hui sur la réparation, sur la résilience, sur la victimisation. Justement, elle voulait tourner le dos, mais pas de chance, c'est comme une histoire à la Kafka. C'est-à-dire que 12 ans après, il faut qu'elle recommence, il faut qu'elle retourne au commissariat, qu'elle raconte à nouveau les fait, alors que d'une certaine manière elle s'était déjà évadée là de cette réalité, et donc c'est très fort. Et là, franchement, vous avez un livre qui se légitime, son existence est légitimée. C'est le seul moyen, encore une fois, d'échapper à la victimisation.
On peut pas mieux répondre au torrent de conneries des réseaux sociaux que par ce livre.
Bah, c'est leur fête, hein, aux réseaux sociaux ce soir. Parle tout bas, c'est donc un bref roman, récit, comme vous voulez, d'Elsa Fottorino, et c'est au Mercure de France. Et on termine avec « Il était une fois à Hollywood ». Ça vous dit quelque chose, hein? C'est Quentin Tarantino. C'est traduit de l'anglais par Nicolas Richard, et c'est chez Fayard. le réalisateur de Kill Bill et de Pulp Fiction, après avoir annoncé à 58 ans qu'il renonçait au cinéma. Est-ce qu'il faut le croire ? C'est une question qui est en suspens. Donc il publie la version romancée, la novélisation comme on dit, de son dernier film, Il était une fois Hollywood, qui est sorti en 2019. Avec DiCaprio et Brad Pitt, vous l'avez vu, hein, tous ici, j'imagine.
Non, je ne l'ai pas vu.
C'est au cinéma, c'est sur des écrans. Ouais. On projette des images.
On m'a dit ça, oui.
On projette des images et c'est souvent en couleur.
Moi, je ne l'ai pas vu encore.
Tu n'as pas vu. Non, je dis ça parce que pour lire le livre.
J'ai lu le livre, hein, j'ai lu le livre.
Oui, mais justement, ma question, c'était parce que, évidemment, c'est un peu différent quand même du.
Mais Frédéric me disait tout à l'heure que
Oui, bah moi.
Celles et ceux qui ont vu le film reconnaîtront les personnages, les situations, mais avec de nouvelles pistes, de nouveaux acteurs, comme Steve McQueen ou Candice Bergen, une fin remaniée et même une apparition, qui n'est pas dans le film, du petit Quentin de 8 ans que son beau-père a initié au cinéma. Voici donc sur le papier la reconstitution du Hollywood de 1969 et l'histoire de Rick Dalton, c'était DiCaprio, un acteur has-been et alcoolique qui eut son heure de gloire au temps du western, et puis sa doublure et homme à tout faire qui est Cliff Booth, qui était joué par Brad Pitt, suspecté d'avoir tué sa femme 69, c'est justement d'ailleurs l'année du meurtre de Sharon Tate, la femme de Polanski, par la bande azimutée de Charles Manson. Et dans ce livre, évidemment, Tarantino multiplie les références et les clins d'œil cinéphiliques. Je vous précise quand même que c'était en juin dernier, Tarantino a annoncé qu'il avait écrit un roman complémentaire qui s'appelle « Les films de Rick Dalton » et qu'il envisage de publier très bientôt. Donc ça veut dire que la carrière romanesque, littéraire en tout cas, de Tarantino ne va pas s'arrêter avec cette version écrite et encore une fois assez différente de « Il était une fois Hollywood » Arnaud.
Écoutez, j'y suis allé à reculons.
Pourquoi ?
Parce que ce terme de novélisation, ça sent pas bon. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir lu des novélisations. C'était pas des grandes choses. Mais là, c'est totalement bluffant. C'est absolument génial. Évidemment, c'est parce que Nicolas Richard vient de sortir un livre où il raconte le traducteur, où il parle justement de ses traductions. Il y a un chapitre sur Tarantino qu'il faut absolument lire, qui est très très intéressant. On apprend d'ailleurs au passage qu'il avait déjà traduit Tarantino, parce que Tarantino lui avait demandé de traduire un tiers du scénario de Inglourious Bastard, puisque le film était tourné en trois langues, dont le français. Et c'est Nicolas Richard qui s'était déjà chargé de la traduction. Et là, ce qui est formidable, c'est que si vous avez vu le film, vous le reconnaissez, évidemment, mais vous voyez aussi tout ce qui a été, comment dire, boosté.
Ce qui est derrière.
Oui,
absolument.
Et c'est absolument formidable parce qu'il y a un talent de dialoguiste incroyable, de narrateur, enfin vraiment d'écrivain, quoi. Je veux dire, là, vraiment, vous vous dites, ce type est un grand écrivain. J'ai été bluffé par l'intelligence. Le début, là, donc le personnage du cascadeur joué par Brad Pitt, en fait, c'était pas du tout dans le film. Sa passion, c'est le cinéma étranger. Et donc, il va voir À bout de souffle de Godard, par exemple, et il dit, mais ce Belmondo ressemble à un singe, mais c'est un singe qui me plaît. Donc, c'est tout Tarantino, là, le sens de la formule. Non, c'est vraiment un grand, grand moment de littérature.
T'as pas l'air d'accord, Nelly ?
Un grand moment de littérature.
Ah, ouais,
non,
absolument.
Mais t'es complètement...
Mais absolument.
C'est, je ne sais pas quelle partie de ton cerveau ne marche pas. ce jour-là, parce que je sais que les deux parties
marchent.
Très,
très bien, je t'assure.
Mais là, non mais c'est du foutage de gueule ce livre. C'est
comment ça du foutage de gueule ?
Mais c'est pas un livre, c'est pas de la littérature, c'est une sorte de scénario gonflé avec un peu plus de phrases par-ci, un peu plus de phrases par-là. Et je me fous de savoir qu'il faut des compléments à un film maintenant. Et pourquoi est-ce qu'il écrit ? Il faut parler un jour des cinéastes qui se mettent à écrire.
Parce qu'il ne veut plus filmer, il veut écrire maintenant.
Mais non, mais qu'il arrête. On peut pas être un bon cinéaste, mais d'écrire. Mais parce que c'est nul. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas d'écriture. C'est sujet à verbe complément. C'est d'une platitude. C'est d'une platitude. Mais qu'est-ce que vous avez à vous exciter de savoir s'il y a un complément, si la fin n'est pas la même. Mais comme si en plus.
Complément, c'est pas moi, c'est lui qui dit. J'ai écrit un roman complémentaire.
Comme si le film, déjà, c'était un chef-d'œuvre magistral de la littérature, on avait besoin d'un complément.
Du cinéma.
C'est pas mal, oui, du cinéma, pardon. C'est pas mal, mais enfin, c'est pas non plus extraordinaire.
Raisons,
mais non, mais il faut que tu apprennes à lire, Arnaud. Il faut que tu apprennes à lire. Il faut que tu arrêtes de dire des choses comme ça. Que Amélie Nothomb, elle est un grand une grande romancière que t'as. Quentin Tarantino, c'est de la littérature.
Frédéric, je suis très 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 embêté parce que je suis d'accord avec Nelly.
Mais qu'est-ce que non,
yes.
Vous avez monté l'opération.
Non,
quoi,
mais je te jure, c'est très très embêtant. Il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème.
Non, je dirais qu'il y a un problème idéologique.
Oui, 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 mais de fond,
de fond.
Ah oui, oui. C'est bizarre. On devient centriste ou quoi?
Si, si les Arocs et Figmag, c'est pareil.
Bah oui. Alors vraiment, tout fout le camp. Quoi.
D'accord.
Oui, oui, oui.
Mais
il n'y a plus de repères.
Enfin,
il
n'y
a plus de repères. Non, mais Tarantino, pour moi, c'est un génie du 7e art. Ça n'en fait pas, pour autant, un écrivain ni un romancier. Et là, on le voit.
Ce sont
les chutes du scénario qui devait être très long. Et parce que le film était déjà assez long.
Ça, c'est pas vrai.
Non, je pense que.
Vous avez le droit de. Non, non, c'est pas les chutes du scénario. Non, c'est pas vrai.
Il est meilleur avec des images qui bouge qu'en rallongeant les scènes de son dernier film. Voilà. Non. Et par ailleurs, ce genre, la novélisation, n'a jamais donné aucun chef-d'œuvre.
Sauf là.
C'est une idée absurde.
Sauf là.
C'est une idée absurde. Adapter un livre, un roman en film, ça donne des chefs-d'œuvre. Adapter un film en roman, jamais.
Tout ce qui se met en jeu entre la mémoire du film et ce qu'on découvre là en lisant le livre, c'est juste parfait. Évidemment, il faut avoir vu le film pour mieux comprendre vraiment là où il décolle.
Non, Michel, il l'a pas vu, il a aimé le bouquin.
Avec la petite
fille.
Michel,
il a pas vu le film, il a pas lu le livre non plus, de toute manière.
Si, j'ai lu le livre.
Bon, attends, on laisse terminer juste Frédéric.
Non. Bon, je veux dire, donc, il faudrait autre chose qu'une suite de scènes coupées. C'est comme si on regarde les bonus d'un DVD, voilà, en gros. Donc, si on est fan de Tarantino, on peut aimer. Ça a été le cas d'Éric Neuhoff, avec qui nous avons des débats au sein du Figaro, vous voyez. Parce que...
parce que vous avez des débats au Figaro.
Il y a beaucoup de... Oui, ben oui. Parce que Éric, il aime toutes les références. C'est vrai qu'il y a plein de références.
Est-ce que c'est de droite ou très à droite ou pas très à droite?
Non. Non, mais je trouve que si on cherche des références pointues à des séries Z, alors on va être satisfait. À part ça, je regrette, pour moi, ça ne présente pas d'intérêt.
Alors, Michel, c'est intéressant parce que tu n'as fait que lire le livre, donc si je comprends bien.
Oui, j'ai vraiment lu ce livre, j'en témoigne.
Il dit ça avec étonnement.
Oui, 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 non, parce que ça m'arrive pas souvent. Et j'ai trouvé ça sensationnel.
Ah,
alors. J'ai très, très envie d'aller voir le film.
Ouais.
Et je vais y aller ce week-end.
Tu me rappelles ces femmes que j'avais vues à l'époque, de la vitrine de la Une, quand c'était une librairie.
Non.
Et c'était l'année où était sorti le film le Proust de Schlendorf au cinéma. Ils avaient mis une couverture sur le livre et les deux dames disaient « C'est formidable, ils ont déjà sorti le livre.
» Non, il y a une chose que je trouve formidable chez Tarantino. Je ne suis pas par ailleurs terriblement amateur de son cinéma, mais là, il y a une connaissance du milieu extraordinaire. Les doublures, il connaît les doublures par leur nom, les types. Tu vois, enfin, c'est
il vit à Los Angeles depuis toujours, donc oui.
Oui, mais moi, je ne suis jamais allé.
Il a lu des bons livres, tu vois. Bon,
je ne connais pas bien ce milieu.
Il avait qu'à écrire un essai.
Il y a des répétitions tout le temps. J'ai noté, par exemple, une assistante qui porte une mini-jupe, page 9, pages après, vêtue d'une mini-jupe.
Oui, j'ai remarqué ça.
C'est agaçant, ça aussi. Tout le temps. Tu as l'impression qu'il nous prend pour des cons. Il y a des didascalies. Par exemple, il explique en 1969, Roman Polanski était une rockstar. Ben merci. Enfin, tu vois, c'est destiné aux financiers de son film, ça, pour leur expliquer.
Tu es injuste, parce qu'il y a une générosité dans ce livre.
Toute la fin est juste, mais magnifique.
Mais oui,
rapport au film. Le rapport avec la petite fille et donc le personnage joué par Leonardo DiCaprio.
Non, c'est
étendu. Il y a un rapport sadomaso entre les deux qui s'instaure. Elle a 8 ans. C'est elle qui le dirige.
C'est ça
qui
me plaît. C'est très bien. C'est mieux que. Comment il s'appelle? J'arrive pas à me souvenir de son nom. qui parle très bien du milieu Las Vegas ou Los Angeles, etc. Mais si.
Hunter Thompson?
Mais non.
Bon, écoute,
Bruce Wagner.
On verra
un Américain.
L'émission va se terminer.
Bruce
donc,
Wagner.
Hein, bon, tant pis.
On va te laisser, Michel.
Donc ouais. Arnaud, Michel, le conseil. Nelly, enfin, la nouvelle équipe qui est maintenant les Arocs Figmag.
Les Arocs Magazine.
Des conseils. Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino et c'est aux éditions Fayard.
On va être virés tous les deux, en fait.
Tous les deux,
au chômage.
Mais pour chéri, tiens. Allez, le temps est venu des conseils. On va commencer avec Nelly.
Un premier roman particulièrement à Frédéric. Tu vas l'adorer. C'est, si vous me permettez de parler maintenant,
vous allez arrêter tous les deux là maintenant.
Vous avez une conversation littéraire, Frédéric et moi. Je pense que les masques et la plume vont devenir une conversation littéraire entre Frédéric et moi. Donc,
si je vous invite encore.
Donc, jaloux. Donc, de Rebecca Gisler chez Verdier. Et c'est absolument génial. C'est complètement, c'est un peu absurde. Et c'est une femme qui raconte la vie de son oncle, qui est une espèce de d'excentrique. Qui vit seule dans une grande maison en Bretagne. Elle va à un moment donné vivre avec lui, elle et son frère, et il devient de plus en plus étrange. Et ça rappelle un peu Mes amis d'Emmanuel Beauve. Il y a un ton un peu à la Emmanuel Beauve. C'est d'une maîtrise. C'est absolument magnifique. C'est superbe.
Le titre ?
D'oncle. D'oncle.
Et j'en profite pour dire, lisez et relisez Emmanuel Beauve. C'est un
écrivain.
Modeste mais essentiel.
Ouais. Mes amis, c'est magnifique.
Absolument. Arnaud.
Alors, Le poulailler métaphysique de Xavier Galmiche aux éditions du Pommier, c'est l'histoire d'un...
c'est quand même rien que...
Il les invente pour faire son intéressant. Voilà.
C'est un petit livre magnifique. C'est l'histoire d'un prof, c'est une histoire, je pense que c'est assez vrai, qui est un rurbain, comme il dit, c'est-à-dire que il est prof à Paris, puis il a acheté une ferme, et il a acheté aussi une basse-cour, et donc il observe sa basse-cour. Alors, dans la semaine, il va glaner entre 5 et 7 dans les poubelles parisiennes pour trouver de quoi nourrir ses poules, c'est essentiellement des poules, mais surtout ce qu'il y a de métaphysique, c'est qu'il découvre évidemment cet univers, les poules, les dindons, etc.
C'est la métaphysique des poules.
Parce qu'il se retrouve quand même dans l'obligation, c'est ça qu'il découvre en vivant à la campagne, dans l'obligation de tuer des animaux. Mais voilà, c'est ça, la mort est là, omniprésente, et donc c'est ce rapport avec ces poules qu'il est parfois obligé de tuer, qu'il aime. Il y en a une qui boite, alors il faut la tuer.
Oui, le couteau sous la gorge. On va pas raconter la vie de toutes les poules,
c'est mais un livre. Alors le Xavier Galmiche est professeur de, il est spécialisé dans la littérature tchèque, et effectivement il y a un peu de Kafka dans son livre. Le poulailler métaphysique, c'est aux éditions du Pommier. Xavier Galmiche, c'est formidable.
Moi aussi je vous conseille un premier roman, c'est Le parfum des cendres de Marie Mangès aux éditions Finitude. Elle fait le portrait d'un homme jeune qui rêvait d'être né pour la parfumerie et puis qui a eu un accident dont il a réchappé et qui choisit de devenir embaumeur ou, si vous préférez, thanatopracteur. Métier peu représenté dans la littérature contemporaine. C'est celui qui rend un cadavre présentable et qui empêche en plus sa décomposition. Et puis, il arrive une thésarde qui est captivée par son métier et qui va évidemment bouleverser sa vie. Ça devrait être sinistre, pour ne pas dire mortel. Et c'est très vivant. Et c'est un premier roman, donc, de Marie Mangès aux éditions Finitude. Le conseil de Frédéric.
C'est aussi un premier roman.
Ah, c'est bien, vous avez été des bons élèves ce soir.
Papillon de verre de Raphaël Milone chez Diaphane. Jeune femme de 25 ans dont l'amoureux disparaît. Et il laisse une lettre qui est peut-être une lettre de suicide. Et donc, pendant la nuit, pendant plusieurs nuits, elle va le chercher dans Paris. Elle pense qu'il s'est peut-être jeté dans la Seine. Et c'est un livre sur Paris la nuit, l'alcool, la solitude, la passion. Et c'est écrit avec fièvre, avec une sorte de lyrisme surréaliste. Plus personne n'écrit comme ça depuis Huysmans, ou peut-être les films de Léos Carax, si vous voulez. C'est très, très, très énervant, avec une...
Calme-toi.
Parfois naïf, parfois illisible, parfois... poétique.
Tout va bien.
Mais voilà, une nouvelle voix dans la littérature contemporaine. Raphaël Milone, Papillon de verre, chez Diaphane.
Chez Diaphane. Et enfin, le conseil de Michel.
Alors moi, je voudrais vous inciter à découvrir une jeune, non pas une jeune philosophe, mais une philosophe américaine qui s'appelle Agnès Heller. Et c'est un peu une descendante d'Anna Arendt, si tu veux. Et c'est un recueil d'essais sur la question de l'identité. Et c'est écrit d'une manière très, très simple et qui m'a beaucoup touché.
Mais c'est un essai.
C'est un essai.
D'accord. Et c'est aux éditions ?
Aux éditions Rivage.
Et tu rappelles le titre ?
Au-delà de soi, Agnès Heller. Voilà.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Nelly Capriélian. Arnaud Vivian, Frédéric Becbédé et Michel Crépu pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir à la technique au Théâtre de l'Alliance Française. Il y avait, je les remercie, Cédric Chatelus, Philippe Thibault, Quentin Alliens, pour une réalisation signée Xavier Pistuggia. Notez bien que le prochain enregistrement d'Imasque, eh bien, il aura lieu le jeudi 4 novembre à partir de 19h. Ce sera au Théâtre de l'Alliance Française 101, boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions. L'une consacrée au théâtre, je dis bien au théâtre, et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.